Je vous invite à ouvrir vos Bibles à Jean 11. Ce n'est pas facile de réconcilier les belles promesses de la Bible concernant l'amour de Dieu pour nous avec l'absence apparente de Dieu dans les circonstances difficiles de la vie. Je me souviens d'une question posée par une de mes élèves quand j'étais professeur d'école dans un lycée catholique il y a 20 ans. J'étais tout jeune. Elle m'a posé la question suivante, une fille qui s'appelait Kara. Elle m'a demandé, Mr. Van, on m'appelait Mr. Van à l'époque. Mr. Van, est-ce que Dieu répond à tes prières? Il ne répond jamais aux miennes. Et c'est pour ça que je ne crois pas en lui. 15 ans. Et c'est vrai que notre expérience de la prière dans les circonstances difficiles peut ressembler peut-être pour certains à une personne qui écrit sur un petit bout de papier « Au secours !» qui insère le message dans une bouteille transparente, hop, bouche la bouteille, et puis on jette la bouteille dans la mer. Plus on a été déçu dans le passé par l'absence apparente de réponse de la part de Dieu, plus on a du mal à croire aujourd'hui que Dieu entendra nos prières et puis qu'il viendra à notre secours. Et donc, prier pour les désenchantés, c'est tout simplement jeter la bouteille sans vraiment croire qu'il y aura une réponse. Et puis, au bout d'un certain temps, on arrête tout simplement de jeter la bouteille, convaincu du fait que ça ne sert à rien de toute façon. Aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, t'inviter, toi et toi et toi, personnellement, à t'imaginer pieds nus au bord de la mer. Tu viens de jeter la bouteille la plus récente avec un message « Au secours, Seigneur !» Après quelques minutes, tu continues ton chemin le long de la plage. Et puis tout d'un coup, oh, tu découvres, partiellement caché dans le sable, une bouteille transparente avec un rouleau de papier dedans. Tu prends, tu enlèves le bouchon et avec un peu de difficulté, tu arrives à sortir le rouleau de papier et en l'ouvrant, tu découvres quelques petites pages recto verso avec le texte de Jean chapitre 11. Dans ta langue maternelle est écrit sur la première page en stylo les mots suivants. Pour celui que j'aime, si t'es un gars. Pour celle que j'aime, si t'es une fille. Et j'aimerais t'inviter à écouter le message de Jean chapitre 11 comme un message d'amour, une réponse inattendue au cri de ton cœur « Au secours, Seigneur !» au milieu de circonstances difficiles dans lesquelles peut-être tu te trouves en ce moment ou peut-être tu te trouves à côté de quelqu'un d'autre qui traverse une période difficile. Et ce chapitre, ce message d'amour aura quelque chose à contribuer à votre accompagnement. C'est un gros texte et je vais me concentrer principalement sur les 6 premiers versets. J'aimerais prier et puis on s'attaque. Donc prions. J'ai tellement de choses à cœur à partager grâce à tout ce que tu m'as montré dans ce texte ces dernières quelques semaines, Seigneur, et je reconnais que le temps est court et je ne peux pas tout dire. Et donc, je compte sur toi pour que le peu que j'arrive à dire, que tu en fasses quelque chose. Et mon désir, en tout cas, c'est que tu révèles ton cœur, peut-être pour certains d'une nouvelle manière, qu'on arrive à mieux comprendre qui tu es. Comment tu fonctionnes? Pourquoi est-ce que tu fais les choses que tu fais? Surtout dans les moments où on a l'impression que tu n'es pas là, tu es absent, tu ne réponds pas à nos prières. Je te remercie pour tout ce que tu m'as montré cette semaine notamment, et je prie, Seigneur, que tu parles maintenant à travers ce texte à tous ceux qui sont là aujourd'hui. Au nom de Jésus, amen. J'ai un plan très simple que j'aimerais vous présenter, mais avant, j'aimerais juste qu'on se situe dans l'évangile de Jean. J'ai quatre propos qui sont là pour nous orienter. Donc, premier propos, la plus grande expression de l'amour de Dieu, c'est la révélation de sa gloire dans nos vies. Et c'est vrai que certains d'entre vous, peut-être vous voyez cette expression et c'est quand même une expression un peu bizarre. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la révélation de sa gloire dans nos vies? On ne parle pas comme ça tous les jours. Eh bien, tout simplement, c'est l'idée que Dieu nous ouvre les yeux quand il révèle sa gloire. Une manière de comprendre cela, c'est que Dieu nous ouvre les yeux, comme il a fait avec l'aveugle né en Jean chapitre 9, pour qu'on voit de manière davantage plus claire qui il est vraiment et pourquoi il fait ce qu'il fait, pour mieux comprendre ses choix et ses décisions. Écoutez ce que dit Jésus dans sa prière en Jean chapitre 17, c'est la nuit où il se livre à la mort et il dit ceci, « Or, il parle à son Père, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. J'ai révélé ta gloire sur la terre, j'ai terminé ce que tu m'avais donné à faire. » Et donc, ce qu'on voit avec ce petit verset, c'est que dans la mission de Jésus, en fait, dans la pensée, la mission de Jésus, révéler la gloire de Dieu, c'est synonyme avec l'idée de faire connaître Dieu. Et pour l'être humain, selon sa prière, connaître Dieu le Père et son Fils Jésus, c'est vivre la vie en abondance qu'on a vu en Jean chapitre 10 la semaine dernière, ce que Jean appelle aussi la vie éternelle. Et voilà pourquoi l'amour de Dieu pour nous et la révélation de sa gloire dans nos vies sont intimement liés l'un à l'autre. Ce sera très important de garder en tête ce propos en examinant le texte de Jean chapitre 11 et vraiment en comprenant tout ce qui se passe dans l'évangile de Jean. Il y a un deuxième propos. C'est souvent grâce à des circonstances difficiles que la gloire de Dieu se révèle. Et je vais redire, c'est souvent grâce aux situations difficiles que la gloire de Dieu se révèle. Quelques exemples. En Jean chapitre 2, c'était grâce à une situation de crise. Vous vous souvenez de la nature de la crise? C'était quoi? C'était un manque de vin lors d'une fête de mariage. Mais c'était grâce à cette crise que les disciples de Jésus ont eu un premier aperçu de la gloire de Jésus, de qui il était vraiment. Puis en Jean chapitre 4, c'était grâce à une suite de déceptions sur le plan relationnel et même sexuel pour la femme samaritaine. C'était grâce à tout ça qu'elle a eu ce privilège de rencontrer Jésus, l'ami des pécheurs, en tête à tête, et de le connaître comme le Messie. C'était grâce à la faim des foules en Jean chapitre 6 qu'on a pu découvrir Jésus comme le vrai pain descendu du ciel. Et puis dans ce même chapitre, c'était grâce à une tempête terrifiante que les disciples ont pu découvrir la puissance de Jésus pour dompter le vent et l'eau. Et en Jean chapitre 9, la cécité de l'homme aveugle-né nous fait découvrir Jésus comme la lumière du monde. Et que ce soit une souffrance qui dure juste peut-être quelques heures, comme lors du mariage à Cana, ou quelques décennies, comme c'était le cas pour l'aveugle-né, l'évangile de Jean confirme ce que dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens chapitre 4 et les versets 17 à 18, un texte assez extraordinaire. Il dit « En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les réalités invisibles sont éternel. Et c'est probable que certains d'entre vous, en lisant ces versets, vous vous dites, ben tiens, effectivement, Paul, il peut le dire parce que ses difficultés étaient plutôt légères. Et si vous dites cela, bon, je vois, il y en a qui rigolent, heureusement, parce que vous connaissez un peu la vie de l'apôtre Paul. Je vous raconte juste quelques détails pour ceux qui ne connaissent pas très bien celui qui annonce cette vérité. 5 fois j'ai reçu des juifs, c'est lui qui parle, les 40 coups moins un. C'est une torture, une forme de torture. 3 fois j'ai été fouetté, 1 fois j'ai été lapidé, 3 fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans la mer, et ce n'est pas une métaphore. Fréquemment, en voyage, j'étais en danger sur les fleuves, en danger de la part des brigands, en danger de la part de mes compatriotes, en danger de la part de non-juifs, en danger dans les villes, en danger dans les déserts, en danger sur la mer, en danger parmi les prétendus frères, etc. Vous comprenez l'idée, hein? Quand Paul parle de légères difficultés du moment présent, il parle de tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, ces légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Mais il faut qu'on voit au-delà de tout simplement ce qui est visible. Il y a des réalités invisibles qui sont derrière tout ça. Et Jean chapitre 11 nous aide à voir ces réalités-là. On pourrait même dire que un des plus grands objectifs du ministère terrestre de Jésus, c'était de nous apprendre à reconnaître et à fixer nos yeux sur les réalités, non pas visibles, mais invisibles et éternelles. Et ce qu'on découvre aussi dans l'évangile de Jean, c'est que cet apprentissage est souvent facilité par des circonstances difficiles, qui nous déstabilisent, qui nous exposent au point mort, ou aux angles morts, peut-être on dit plutôt, dans notre vision de Dieu et de son plan bienveillant pour nos vies. Donc, 2 autres propos rapides que je vais développer un peu plus tard. 3e, c'est la révélation ultime de la gloire de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Et puis la résurrection de Lazare préfigure et prépare le terrain pour le chapitre final de cet évangile. Voilà. Donc avec le peu de temps qui me reste, j'aimerais qu'on se focalise sur Jésus quand même, dans ce chapitre 11, et ce qui est révélé dans cette expérience très difficile pour la famille de Lazare. Donc, 3 points, tout simplement. L'amour du Fils de Dieu, la gloire du Fils de Dieu et l'absence du Fils de Dieu. C'est quand même intéressant de garder en tête le fait que ce terme « Fils de Dieu », une manière de comprendre ce terme, c'est de reconnaître Jésus comme une manifestation visible d'une réalité invisible. Que Jésus, Fils de Dieu, c'est une manifestation visible, quelqu'un qu'on pourrait voir avec les yeux, toucher, entendre avec nos oreilles, mais qui nous révèle une réalité invisible, la réalité de Dieu, notre Père. Donc on commence avec ce premier point, l'amour du Fils de Dieu. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Notre histoire commence effectivement avec un message dans une bouteille. Seigneur, celui que tu aimes est malade. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de demande. Est-ce que vous avez vu ça? Il n'y a pas de requête. C'est juste une info. Mais l'info suffit. Le message est clair. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et pour qu'on sache à quel point l'affection entre Jésus et les membres de la famille de Lazare était grande, eh bien, Jean nous donne un petit aperçu de cette relation en verset 2. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Je relis ce verset où il dit « Marie, au cas où on se pose la question, mais on parle de quelle Marie là? Quelle Marthe? Quel Lazare? » Eh bien, Marie était celle qui versa du parfum sur les pieds du Seigneur et qui les essuya avec ses cheveux. C'était son frère Lazare. qui était malade. On n'a même pas encore vu cet épisode en Jean. Hein. Ça va venir dans le prochain chapitre, chapitre 12. Mais Jean nous donne un petit avant-goût pour qu'on sache de qui on parle et quel type de relation existait entre ces personnes, la famille de Lazare et Jésus. Jésus aime cette famille. Et cette famille aime Jésus. Et donc, nous sommes d'autant plus surpris de lire en verset 6 quand Jésus eut appris que Lazare était malade. Il reçoit ce message dans une bouteille. Le message est clair. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Ça ne va pas bien à la maison. Qu'est-ce qu'il décide de faire? Eh bien, il resta encore 2 jours à l'endroit où il était. Et pendant ces 2 jours, Lazare, il est décédé. Et quand Jésus annonce sa mort dans les versets 11 à 14, c'est quand même intéressant parce qu'il appelle Lazare notre ami. Notre ami Lazare s'est endormi, mais je vais aller le réveiller. Et peut-être vous vous posez des questions, mais attends, Nico, je pensais que Jean venait de nous dire que Jésus aimait Marthe et il aimait sa sœur Marie et il aimait Lazare, mais pourtant, quand Marie et Marthe lancent leur bouteille, quand le message est envoyé, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il reste là où il est encore 2 jours, le temps nécessaire pour que Lazare y décède. Bon, si on va un petit peu plus loin dans le texte, on a d'autres preuves quand même de son amour qui peut-être rendent plus compliqué notre compréhension de cette histoire. Si on regarde en verset 33, on voit Jésus qui se retrouve en face de Marie et les Juifs qui l'entourent. Tout le monde est en train de pleurer. Et Jean nous donne un aperçu rare de la vie émotionnelle de Jésus. Verset 33, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Puis verset 35, Jésus pleura. En le voyant pleurer, les Juifs disent en verset 36, « Voyez comme il l'aimait. » Donc on a encore une fois une déclaration de l'amour de Jésus pour Lazare et pour cette famille. Puis verset 38, « Jésus, de nouveau, profondément indigné, se rendit au tombeau. » Je ne vais pas prendre le temps maintenant pour faire une psychanalyse des émotions de Jésus alors que c'est tentant. Ce que j'aimerais souligner tout simplement, c'est que ce chapitre nous donne un aperçu du cœur d'un homme. Un homme qui aime énormément cette famille. Un homme qui pleure avec cette famille. Un homme qui est profondément indigné et bouleversé face à la souffrance de cette famille et peut-être aussi face à leur réaction, à leur propre souffrance. Et ce cœur d'homme, vu qu'il s'agit du cœur de Jésus, le Fils de Dieu, une manifestation visible d'une réalité invisible, eh bien là, ça nous donne un aperçu du cœur de notre Dieu. De ce Dieu qui se révèle lui-même comme le bon berger, comme Aurélien nous a montré la semaine dernière. Et donc je trouve que c'est hyper important qu'on capte ces petits détails dans le texte, qu'on ne passe pas à côté, qu'on en cherche à comprendre la décision de Jésus en verset 6. Deuxième point. Donc, on a parlé de l'amour du Fils de Dieu. Là, on passe à la gloire du Fils de Dieu. Cette maladie servira à la gloire de Dieu, verset 4. Et là, petit rappel de mon troisième propos, la révélation ultime de la gloire de Dieu, c'est le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce que Aurélien nous a montré dans le texte de Jean 10 la semaine dernière, mais peut-être vous l'avez oublié. Petit rappel de quelques déclarations de Jésus en Jean chapitre 10. Il dit ceci, il parle de lui-même, révélation, manifestation visible d'une réalité invisible. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis, verset 11 de Jean 10. Je donne ma vie pour mes brebis, verset 15. Le Père m'aime, donc il parle de son Père céleste, parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite, verset 17. Et puis, verset 18, personne ne me l'enlève, personne n'enlève ma vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Et ces versets nous révèlent quelque chose de pas facile à comprendre. L'amour du Père qui se manifeste dans un ordre. Vous avez vu ça? C'est quoi l'ordre du Père concernant son Fils bien-aimé? De donner sa vie. Qui meurt. Et Jésus se sent aimé de son Père. Pourquoi? Je peux vous dire, si je donne l'ordre à mon fils Wesley d'aller donner sa vie, il ne va pas se sentir aimé. Qu'est-ce qui fait que Jésus se sent aimé face à cet ordre? Eh bien, ce qui est clair dans le texte, c'est que le Père, en donnant cet ordre de donner sa vie, ne s'arrête pas là. Il donne aussi le pouvoir de reprendre sa vie après la mort. Et ça, c'est une réalité qui se situe au cœur de notre foi en tant que chrétien. Comme dit l'apôtre Paul, Jésus ne regarde pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, convaincu du fait que les réalités visibles, y compris le confort, la santé, les biens matériaux, la vie terrestre, les relations terrestres, toutes ces réalités-là sont passagères. Alors que celles qui sont invisibles sont éternelles. Jésus se sent aimé car il sait que les difficultés du moment présent, y compris sa propre souffrance et sa mort, sont légères. Elles sont petites face à la gloire éternelle que son Père a préparé pour lui. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est pour ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut dire que c'était pour la joie qui était devant lui que Jésus est allé à la croix. Il savait qu'il y avait une gloire qui attendait de l'autre côté de la mort. Mais notre bon berger sait que nous, alors que Jésus, il a bien compris cette réalité-là, nous, moi, bon, je ne peux pas parler pour vous, hein, mais moi, j'ai du mal à accueillir cette réalité-là, à croire que c'est vrai. Nous avons vraiment du mal à croire que nos souffrances présentes, déjà qu'elles sont légères, petites, qu'elles nous préparent pour un héritage glorieux. Moi, je veux être délivré maintenant. Je veux le confort maintenant. Je veux que ma situation aille mieux maintenant. Et quand je souffre, j'ai du mal à me projeter et à regarder au-delà de la réalité de ce que je vis maintenant. Et le Seigneur sait que c'est le cas pour moi et que j'ai besoin d'un peu d'aide pour croire quelque chose d'aussi extraordinaire. Et voilà pourquoi Jésus reste encore 2 jours là où il était. Comme on voit en versets 14 et 15, Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort, les amis. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je sais que vous aurez du mal à croire, surtout à la résurrection. Donc à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. » Vous avez besoin de voir quelque chose. Marthe a besoin de voir quelque chose. Marie a besoin de voir quelque chose avant de pouvoir accepter quelque chose d'extraordinaire que je vais vous révéler. C'est quoi? C'est que je suis la résurrection et la vie. La résurrection de Lazare préfigure et prépare le terrain pour le chapitre final de l'évangile de Jean. Et dans son amour pour ses brebis, y compris la famille de Lazare, Dieu le Père veut que les disciples de Jésus sachent et croient que Jésus est la résurrection et la vie. Voilà pourquoi il reste encore 2 jours. Et ça nous mène au troisième et dernier point. Donc on a vu l'amour du Fils de Dieu, on a vu la gloire du Fils de Dieu, et maintenant on fait face à l'élément le plus difficile de ce texte, l'absence Fils de Dieu. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Vous avez vu ça deux fois dans le texte. Marthe le dit d'abord en verset 21. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et puis Marie aussi en verset 32. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Et les amis, la puissance de cette petite déclaration que ces deux femmes osent faire devant le Seigneur. La puissance de cette déclaration pour toucher nos cœurs. Pourquoi? Car l'expérience de Marthe et l'expérience de Marie, c'est aussi notre expérience, n'est-ce pas? Peut-être on n'ose pas le dire, comme elles ont osé dire au Seigneur. Mais on le vit quand même. Hein? Seigneur, si tu avais été ici, je n'aurais pas autant souffert. Mon frère ou ma sœur, ou mon papa ou ma maman ou mon enfant ne serait pas mort. Si tu avais été là, je ne serais pas encore malade. Si tu avais été là, je ne serais pas encore au chômage. Je ne serais pas encore célibataire. Je ne serais pas encore en lutte contre la dépression. Je ne serais pas encore en conflit avec mon époux ou mon épouse ou peut-être avec un autre membre de mon entourage, etc., etc. Seigneur, si tu avais été ici, ma situation serait différente. Et pour certains, ce cri de cœur concerne une situation du passé. Pour certains d'entre nous, c'est aujourd'hui, c'est maintenant que je suis en train de vivre cette réalité-là. De me poser cette question-là. Seigneur, où es-tu? J'ai besoin de toi. Et ce qui me frappe dans ce texte de Jean 11, c'est que la Bible n'a pas peur d'une telle déclaration. La Bible n'a pas peur d'une telle question. Marie ose le dire. Seigneur, je suis déçu et je ne comprends pas. La Bible n'a pas peur d'un tel échange. Et ça veut dire que Dieu n'a pas peur de ça non plus. C'est la question implicite du livre de Job, pour ceux qui connaissent un peu ce livre. C'est la question explicite d'un certain nombre des psaumes et du livre des Lamentations. C'est la question que pose Jésus au moment de sa plus grande souffrance et de sa plus grande solitude. Qu'est-ce qu'il dit sur la croix? Vous vous souvenez de sa question? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La Bible n'a pas peur de cette question, les amis. Jésus lui-même pose la question. C'est extraordinaire. Et voici une question que j'aimerais me poser ce soir, que je me pose face à ce texte. Et je vous pose cette question aussi, si ça ne vous dérange pas. Si la Bible n'a pas peur d'une telle question, pourquoi aurais-je peur moi-même de poser cette question au Seigneur? Où étais-tu, Seigneur? Où es-tu, Seigneur? Je ne comprends pas ton absence apparente, le manque de réponse. Je jette ma bouteille et j'ai l'impression que ça ne change rien. Pourquoi, Seigneur? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je crois vraiment que Jean 11 nous annonce un message d'amour assez extraordinaire de la part de notre Seigneur. Il nous donne une réponse justement à notre question quand il dit « Je suis la résurrection et la vie. Et celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. » Est-ce que vous avez vu ça dans le texte? Extraordinaire! « Celui qui croit en moi vivra même si je ne le délivre pas de la mort. » Il vivra même s'il meurt. Bizarre quand même. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Attends, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire, Jésus, concernant la mort? Que je peux mourir sans mourir? Oui. Et la résurrection de Lazare est censé nous montrer un exemple puissant de cette réalité-là. qu'avec Jésus-Christ, la mort n'a pas le dernier mot. L'histoire n'est pas terminée. Et si ça peut être le cas avec la mort, les pires des situations qu'on peut vivre dans une vie, pourquoi pas appliquer ce même principe à toutes les autres épreuves, difficultés, souffrances qu'on pourrait vivre, en disant que la maladie n'a pas le dernier mot, même si je suis malade. Le malheur n'a pas le dernier mot, même si aujourd'hui je suis malheureux. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Jésus pose la question, « Crois-tu cela ?» Est-ce que vous avez vu à quel moment il pose cette question dans le texte? C'est avant la résurrection de Jésus. C'est avant qu'elle voie avec ses propres yeux le miracle qu'il avait préparé. Elle est toujours dans le deuil. Elle est toujours dans l'incompréhension, peut-être même dans la frustration. Et il pose cette question, est-ce que tu crois cela, Marthe? Marthe, est-ce que tu crois que je donne la vie après la mort? Est-ce que tu crois que la vie de ton frère, Lazare, est entre de bonnes mains, même maintenant? Est-ce que tu crois que ta vie, peu importe ce qui t'arrive, est entre de bonnes mains, maintenant? Est-ce que tu crois que votre famille, que j'aime tant, n'a rien à craindre face à la mort? Que la mort n'a aucune puissance sur vous et que son emprise n'est que temporaire et passagère, comme toute souffrance que vous pouvez vivre. Est-ce que tu crois, Marie, que ces légères difficultés du moment présent produisent pour toi, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire? Et la réponse de Marthe, c'est oui, Seigneur. Et aujourd'hui, face à mes propres difficultés, je dois me poser la question aussi. Nico, est-ce que tu crois cela? C'est facile le dimanche, quand tu es avec les frères et sœurs et qu'on t'enchante et on entend la prédication, on se souvient de ces belles vérités, mais en semaine, pas toujours. Quand ça va mal, quand je ne comprends pas, c'est difficile de croire qu'il est la résurrection et la vie et que je n'ai rien à craindre au milieu de ces difficultés légères et passagères. Je dois transitionner vers la Sainte Cène, je crois. Mais j'aimerais juste m'arrêter là quelques instants. Juste pour qu'on réfléchisse un petit peu en silence, je vais lire quelques versets de la conclusion de notre texte en Jean 11 pour préparer le temps qui suivra. Mais avant d'y aller, je vous pose une question que je me suis posée à plusieurs reprises cette semaine. Quelles circonstances, que ce soit du passé ou du présent, rend difficile ta capacité de croire ce que Jésus révèle concernant sa vraie nature dans ce texte de Jean 11. Est-ce qu'il y a un moment peut-être où vous avez jeté votre bouteille avec le message « Au secours, Seigneur !» sans avoir eu une réponse? Et peut-être par la suite, vous avez vécu une expérience de l'absence apparente de Dieu et ça vous laisse incertain face à cette déclaration de Jésus. Je suis la résurrection et la vie. Et face à ce qu'on voit dans ce passage avec Marthe et Marie, je vous encourage peut-être à revisiter ce moment, que ce soit passé ou présent, en vous posant la question, Seigneur, est-ce que tu es en train de faire quelque chose dans ces circonstances? Comme Jésus qui a décidé d'attendre 2 jours parce qu'il y avait un plus grand projet, une révélation de sa gloire qui était prévue. Est-ce que c'est possible que tu voulais me révéler quelque chose, que tu veux encore me révéler quelque chose pour que je comprenne mieux qui tu es, comment tu agis, est-ce que tu as préparé pour moi? Juste quelques instants pour digérer un petit peu ce qu'on vient d'entendre et puis je vais nous transitionner vers la Sainte Cène pour conclure. Je reprends la lecture en chapitre 11 de Jean, le verset 47 qui dit ceci. Suite à la résurrection de Lazare, alors les chefs des prêtres et les pharisiens rassemblèrent le Sanhédrin et dirent: qu'allons-nous faire? En effet, cet homme fait beaucoup de signes miraculeux. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit: vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Puis 53, dès ce jour, les chefs religieux tinrent conseil pour le faire mourir. Donc, ce qu'on voit ici en Jean 11, c'est l'élément déclencheur, c'est un peu la goutte qui fait déborder la vase, la décision est prise maintenant. On va tuer ce gars. Il faut faire mourir Jésus. Et donc Jésus, en décidant de revenir vers Marthe et Marie, ressusciter Lazare, il s'est mis en danger. Et il le savait, parce que les disciples, vous l'avez vu dans le texte, ne voulaient pas retourner en Judée. Ils savaient que ce serait dangereux. Et donc, ce n'est pas pour se préserver lui-même de souffrance que Jésus reste. Il ne faut jamais qu'on imagine que Dieu prend plaisir à notre souffrance. Il ne faut jamais imaginer que nous souffrons plus que lui. Sa souffrance, la souffrance de notre Sauveur et Seigneur, dépasse largement tout ce qu'on va jamais souffrir dans notre vie, les amis. Et pourquoi est-ce qu'il a souffert autant? C'est justement car il est la résurrection et la vie. C'est pour nous délivrer, nous, des conséquences de nos fautes, de nos péchés, pour nous purifier dans nos cœurs, pour nous offrir une vie nouvelle par la foi en lui, une vie de résurrection où nous savons que, aussi noir que soit le tombeau dans lequel on se retrouve pendant une période, on n'est jamais abandonné là-dedans. Et tôt ou tard, on va entendre la voix de Jésus qui criait, c'était tellement fort avec Zoran tout à l'heure: Lazare, sors.